RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Retour des grandes gueules avec autour de la table pour démarrer la semaine sur RMC la radio, RMC Story, la télé, Jean-Loup Bonamy, le prof de philo, Charles Consigny, notre avocat, et notre prof de français préféré, Fatima Edbounoua. On va vous raconter maintenant cette histoire terrible, dramatique, qui peut provoquer vraiment beaucoup de colère. C'est l'histoire de deux meurtriers présumés qui ont été libérés hier de prison en raison d'un vide juridique. Ce sont les meurtriers présumés de Chemseddine, 15 ans, tué à coups de pied de poing. C'était à Viry-Châtillon en 2024, à la sortie du collège. Ces deux meurtriers qui sont aussi mineurs ont été libérés. Pourquoi ? Il y a un vide juridique qui a été laissé par l'absence de réécriture d'un texte sur la détention des mineurs renvoyé devant une cour d'assises. Le Conseil constitutionnel avait donné au gouvernement et aux députés jusqu'au 1er juillet pour corriger la situation. D'ailleurs, on en avait parlé en disant, malheureusement, le fait de ne pas avoir corrigé cette situation allait entraîner la libération de meurtriers. Et donc, ça n'a pas loupé. Les meurtriers mineurs, avant leur jugement, avant leur procès, sont censés être libérés, sans obligation de pointage en plus, sans bracelet électronique. Ils sont seulement contraints de ne pas se rendre dans le département de l'Essonne, là où se sont produits les faits. Et bien sûr, ils ont interdiction d'entrer en contact ensemble. Ils ont d'ailleurs été libérés, accueillis par leur ami à la sortie de prison. Des scènes de liesse qui ont choqué sur les réseaux sociaux. Alors du côté du ministre de la Justice, du ministère de la Justice, de M. Darmanin, on dit oui, les magistrats ont fait du zèle, ils n'étaient pas obligés de appliquer ce vide juridique. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat judiciaire, mais néanmoins, il y avait une façon d'agir, c'était de modifier la loi. Il y avait un an pour cela. Alors c'est vrai qu'à l'Assemblée, c'est compliqué depuis la dissolution, mais est-ce que ça vous choque ? Le 32-16 pour intervenir, bien entendu. Et Fatima, qu'est-ce que tu penses ?
Alors, très choquée, en colère, et je vais essayer d'être calme. Donc, on rajoute de l'insupportable à l'insupportable. Imaginez, vous avez perdu votre enfant, tué sauvagement, à coups de pied, à coups de poing, et ensuite, vous découvrez, par hasard, une vidéo où les deux tueurs sont là,
oui,
se baladent.
Les familles l'ont appris par la presse.
Voilà. Donc vous découvrez par hasard que les deux tueurs se baladent. Donc et on nous dit vide juridique ou faille. Ce n'est pas une faille, c'est une faute. Ce n'est pas un vide, c'est un trop plein pour nous, parce que ce n'est pas la première fois. Dans un même temps, et ça se ressemble pour moi, on a une jeune femme, une étudiante qui a été violée à Marseille. Et cette jeune femme étudiante violée, kidnappée, séquestrée et qui très courageusement a réussi à mémoriser la plaque d'immatriculation de la voiture. Et donc on a pu attraper son agresseur. Et l'agresseur, c'était un violeur en série qui était en prison depuis quelques années et qui a été libéré en avance, même pas surveillé ni rien. Donc là aussi... vos failles, vos vides, c'est ce problème de suivi, ce problème de... C'est du mépris. En fait, on crache au visage des victimes. C'est un crachat au visage des victimes. Ce n'est pas un vide juridique. On crache au visage des parents de Chemseddine. On crache au visage des parents de jeunes victimes. Ça veut dire que déjà pour eux, je ne sais même pas comment ils font pour supporter, pour rester dignes. Je suis toujours très admirative de tous ces parents-là qui restent très dignes et qui tiennent encore debout. Ils tiennent debout, ils attendent au moins que justice soit faite. Et ben tiens, on leur crache dessus avec des images, des agresseurs qui sont tranquilles. Ben dans ces cas-là, on va dire carrément que la justice propose au tueur de finir le travail. Parce que pour le violeur en série, c'était ça. T'as un violeur en série, t'as
encore,
pas fini le boulot.
Sa peine.
Allez, non, il n'avait pas purgé. C'était 18 ans et c'était pas complètement. Non. Et en plus, il faudrait qu'il y ait un suivi. Si t'as un violeur en série, tu vas pas t'arrêter en sortant. Je suis désolée. Ouais. De la même manière, là, on les sort, ils vont pas tout d'un coup. Ah ben tiens, ils vont devenir. Quand tu tues quelqu'un avec tes pieds et avec tes poings, tu vas pas tout d'un coup devenir très sage en sortant s'il y a pas de suivi. Je suis désolée. Donc ce n'est pas un vide juridique, c'est un crachat au visage des victimes et des parents des victimes.
Jean-Loup, ce qui est terrible, ce sont ces images.
Hein.
On a vu sortir de prison. Si on se met à la place de la famille, c'est difficile, mais ça doit être insupportable, ces images de liesse autour de leur sortie de prison.
Pour la famille, c'est insupportable, pour nous même.
Comme si c'était deux héros qui sortent.
Bah oui. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette affaire. La première, c'est que il y a une semaine, sur ce même plateau, je proposais de supprimer purement et simplement le Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui est à l'origine de cette situation.
Oui, enfin, ils avaient un an pour changer les choses.
Le Parlement avait un an.
Le Parlement a un an, mais déjà, la décision même du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel en elle-même est dingue, en fait. Déjà, c'est le point de départ. Et les images qu'on voit là, qui sont choquantes et qui, en effet, comme le dit Fatima, sont un crachat au visage de la famille de la victime, c'est quand même le Conseil constitutionnel qui en est à l'origine, suivi par l'incurie du ministère de la Justice, suivi par le Parlement, puisque Emmanuel Macron, comme il a eu dit, l'idée de génie de dissoudre, eh ben, on ne peut plus rien faire depuis 2 ans. Donc, les conséquences, on les a là, sous nos yeux. Ensuite, je remarque, et c'est pas du tout une surprise, qu'ils ont été accueillis par leurs petits camarades, les deux meurtriers, avec justement comme des héros, avec des cris de joie, des scènes de liesse, sans du tout penser à ce que ces images pourraient avoir comme conséquence sur la famille de la victime. Bah oui, c'est pas surprenant. Racaille un jour, racaille toujours. Donc, c'est pas du tout étonnant. Ils montrent.
Surtout meurtriers, là.
Ils montrent leur vrai visage qui y sont et que ça ne change absolument rien. Et troisièmement, comment est-ce que les choses... Parce que je comprends même pas que 2 ans après, ils aient toujours pas été jugés. Comment les choses se passeraient dans un pays qui fonctionne normalement?
Et la durée aussi.
Dans un pays qui fonctionne normalement, là, on sait que ce sont les assassins. OK. Et ben, dans les jours qui suivent leur arrestation, 4 ou 5 jours après l'arrestation, on fait un procès. Le procès, il dure... Le procès, il dure une après-midi maximum. De 13h à 18h, c'est largement suffisant. Ce n'est pas une plaisanterie. Le procès, il dure 5h maximum, de 13h à 18h. Pour ce genre d'affaires, c'est largement suffisant. Je dirais même que c'est trop. Il n'y a pas besoin de plus de 5h. Et au bout de 5 heures, les mecs prennent 30 ans. Et ils n'en ressortent pas avant 30 ans. Ça, c'est ce qui se passe dans un pays qui fonctionne normalement. Si on sait que c'est toi, s'il n'y a pas de doute sur l'auteur du crime, le procès, il a lieu immédiatement dans la foulée, quelques jours après l'arrestation. Il dure une après-midi maximum. Tu prends 30 ans et tu ne sors pas au bout de 30 ans. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans un pays bien tenu.
Si la justice avait été plus rapide, on ne serait pas tombé dans ce vide juridique. On les aurait jugés en temps et en heure, Charles.
Oui, ça c'est vrai. Il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition qui concerne la détention provisoire des mineurs dans les faits criminels. Et dans ces cas-là, effectivement, le Conseil laisse aux parlementaires un délai pour mettre la loi en conformité avec ce qu'ils ont décidé. Il est vrai que, moi je ne suis pas de ceux qui sont contre l'état de droit et contre le contrôle de la loi, etc. Autant je pense que c'est pas la peine de, pour dire les choses comme elles sont, d'enculer les mouches, pour être tout à fait clair. C'est-à-dire que il y a aussi maintenant une espèce de préciosité des cours suprêmes à retoucher ici et là au nom de principes comme ci comme ça des choses qui somme toute se passerait bien de ces élégances. Et donc ça fait que nos parlementaires étant très occupés à faire autre chose que de faire leur là en l'occurrence c'était vraiment leur boulot, là il fallait mettre sur le tapis, que ce soit le gouvernement ou c'est au gouvernement de le faire d'ailleurs. C'était à Darmanin de le faire. Il fallait proposer aux parlementaires une loi qui permette de réparer ce truc-là, même si sans doute le Conseil a fait du zèle. Que les juges aient fait du zèle, ça par contre, ça me paraît un raisonnement un peu curieux, parce que les juges, ils ne peuvent pas maintenir quelqu'un en détention s'ils n'ont pas un mandat de dépôt valable. Et ça, pour le coup, on ne peut pas leur faire grief. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous êtes détenu, il faut quand même que ce soit en vertu d'un titre absolument incontestable. S'il y a un problème, s'il n'y a pas de fondement légal à votre mandat de dépôt, vous ne pouvez pas rester en prison. Sinon, là, pour le coup, on n'est plus du tout dans un état de droit.
Mais le ministère de la Justice conteste la libération. Ils estiment que ce vide juridique ne s'applique qu'aux décisions postérieures au 1er juillet 2026. Elle ne s'applique donc pas aux mineurs en détention provisoire avant cette date. Donc, pour le ministère de la Justice, les juges ont fait du zèle. Ils n'auraient jamais dû libérer ces deux mineurs. Donc là, mais c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a un bras de fer entre Gérald Darmanin et les magistrats.
Le parquet peut faire un pourvoi en cassation.
Mais les deux, de toute façon, ils sont en liberté. Hein.
Non, par ailleurs.
En plus, ils n'ont aucune contrainte, ils n'ont même pas de bracelet électronique,
ils n'ont rien.
Ils peuvent recommencer.
Ils
peuvent se venger aussi.
Sur la durée des procédures,
bah oui.
C'est une réalité. Bah et oui. Moi, je sais, j'ai eu plein d'affaires, effectivement, tout à fait simples, tout à fait élucidées, dans lesquelles on poirote pendant des mois et des
mois. Est-ce que c'est à cause des avocats? Parce que
non,
les
non,
juges
non,
vont
non,
te dire, non, c'est alors, les avocats oui, qui font des recours,
oui, 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 oui.
Qui,
non,
qui
non,
font
mais là, il n'y a aucune difficulté, on sait que c'est eux, c'est très simple comme affaire. L'affaire est simplissime.
Certaines affaires durent longtemps grâce effectivement à des bons avocats en défense qui parviennent à faire durer longtemps. Sans injurier quiconque, je ne pense pas que ces deux jeunes gens aient été défendus par les avocats les plus chers du marché. En général, on donne des commis d'office qui sont pas forcément mauvais, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'autres dossiers et qui ont pas forcément le luxe de mener des procédures dilatoires. Il se trouve, en l'occurrence, que là, ce ne sont même pas les avocats qui ont soulevé ce point. Ce sont les juges qui l'ont relevé d'office. Donc, on peut pas mettre en cause les avocats sur ce dossier-là. Mais il est vrai, je trouve que, c'est marrant parce que la justice, on a l'impression que si on touche vraiment mais à un millimètre du système, on est déjà un fasciste horrible, etc. Et je
on
pense,
l'a vu avec l'affaire Liana.
Je pense que elle gagnerait effectivement à améliorer sa célérité. Mais, c'est pas normal que les instructions soient si longues.
Mais on reconnaît quand même qu'on va de bavure judiciaire.
De fiasco en fiasco.
Ou de fiasco en fiasco. Il y a eu l'affaire Liana. Là, on apprend qu'on libère deux meurtriers quand même, en plus, dans des circonstances terribles.
Pour la jeune étudiante à Marseille, c'est aussi quelque chose de gravissime.
On libère en avance un violeur
série, libéré en avance en juin et qui viole une autre jeune femme en juillet. Vous imaginez bien que cette courageuse femme-là, en plus, c'est grâce à elle. Finalement, c'est pas l'État qui nous protège. C'est cette femme-là qui a pu mémoriser la plaque et qui, finalement, protège d'autres femmes. Parce que sinon, il aurait continué sa série, finalement.
Non,
grâce
mais
à elle,
attention,
elle a arrêté.
Fait, quand même, il y a
non, mais
un
elle
effet.
A arrêté un cycle.
On est un pays de 67 millions de personnes. Il y a quand même un nombre de dossiers très, très important. Alors, effectivement, bien sûr, il y a ces bévues qui sont inacceptables
et qui
doivent entraîner des réactions. Mais de là en faire une généralité, je suis pas sûr non plus. Parce qu'attention, là, je vais faire mon avocat une seconde. Si on met en cause tous les magistrats qui remettent des gens en liberté, dans ce cas-là,
qui doit faire 18 ans et
dans ce cas-là,
il y a deux choses qui choquent les gens, Charles.
Ils mettront plus personne en liberté.
Mais l'absence de suivi aussi.
Or, il faut quand même, vous savez, en matière de détention provisoire, par exemple, normalement, il faut quand même. C'est pas facile d'avoir une remise en liberté.
Oui, mais Charles, ce qui choque les gens, c'est que on va jamais au bout de sa peine. C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un à 18 ans, il ne fera jamais 18 ans. Donc les gens comprennent pas pourquoi. Et deux, c'est quand il s'agit de quelqu'un qui visiblement est un détraqué sexuel, c'est-à-dire que c'est un violeur qui n'est pas capable de contrôler ses pulsions.
Au moins qu'il fasse
c'est pas la même chose qu'un cambrioleur ou un braqueur de banque. Et donc ces gens-là, on les remet en liberté. Quel était son suivi? Donc on a quand même le droit de se poser des questions, sachant que derrière, on sait que les contrôles judiciaires sont pas toujours très respectés,
surtout
les obligations de soins non plus.
Surtout quand c'est un violeur en série. C'est même pas un viol.
C'est comme les pédophiles qu'on remet en liberté. On sait que malheureusement, il y a beaucoup de récidives dans ce type de criminalité.
Ou alors que le suivi soit très très
oui mais le suivi
incroyable,
c'est, on en revient au sujet du début, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est une question encore une fois de choix budgétaires. Le régalien est en réalité le parent pauvre des choix budgétaires français. On met tout l'argent de notre pays, tout l'argent public
dans la
de notre pays
sociale.
Va dans la protection sociale. Donc les mêmes gens qui veulent un état nounou pour eux-mêmes s'étonnent et se scandalisent de ce que un violeur a été laissé dans la nature, pas suffisamment suivi par les services judiciaires, etc. Mais ils n'ont pas les moyens de le faire parce que on met l'argent ailleurs.
Jean-Loup, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vient de faire Charles. On en revient toujours au même. Et ce qui est intéressant, c'est également que normalement, le but de l'État et le but de la justice, c'est de protéger. Le propre de la puissance, c'est de protéger la sécurité des biens et des personnes. Or, cette mission-là, quand même, visiblement, par exemple dans l'affaire Shamseddine, elle n'est pas remplie par la justice, alors que c'est la mission fondamentale. Et ça crée un sentiment d'impunité chez les délinquants et chez les criminels qui rigolent. Ils regardent l'État français et ça les fait bien marrer. C'est ce qu'on a vu sur les vidéos. Et donc, je terminerai en citant François Mitterrand. François Mitterrand qui connaissait les affaires de l'intérieur pour avoir été chef de l'État et qui avait une très grande culture historique. François Mitterrand disait les juges ont tué la monarchie, ils ont eu la peau de la royauté d'Ancien Régime, et un jour, ils tueront la République. C'est exactement ça. Les juges, en bloquant toutes les réformes que voulait faire la monarchie, eh ben, ils ont amené, en fait, la monarchie à sa chute et ils ont provoqué la Révolution française. D'ailleurs, la Révolution, elle, elle n'a pas commis la même erreur puisqu'elle a envoyé les juges à l'échafaud. Oui. Elle a fait monter les anciens présidents des parlements de l'Ancien Régime sur, à la guillotine. Et ensuite, bah, Mitterrand, il disait que de même que les juges avaient tué la monarchie, eh ben, ils tueront la République. Et là, faudra pas s'étonner si un jour il y a de la colère populaire vraiment qui explose.
Serge est avec nous et Serge, vous savez d'où il appelle? De Prague, en République tchèque. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous entendez bien? Très bien. C'est sympa de nous écouter de si loin.
Oui, je vous écoute tous les jours en fait. Alors, je vous cache pas que des fois ça m'énerve un peu.
Vous écoutez quoi? Sur l'appli RMC?
Oui, sur l'appli RMC. Donc là, je vous ai répondu sur WhatsApp. Je voulais juste rebondir sur le sujet. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme pour les feux. Tant que ça touche pas des personnes qui sont influentes, des personnes du gouvernement, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, on a beaucoup de laxisme. Mais on n'entend jamais parler de squatteurs ou d'agressions sur des personnes très connues où les agresseurs sortent de prison sans problème. Donc moi, c'est de l'extérieur, encore une fois, je connais pas le dossier, c'est beaucoup de frustration. C'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours les mêmes qui ont aucun moyen de vraiment se défendre. Donc voilà, mon petit coup de gueule de Prague.
Mais peut-être d'ailleurs cette affaire devrait faire beaucoup plus parler en fait, parce que elle est choquante. Alors vous avez peut-être raison, les parents de Chemseddin n'ont peut-être pas les moyens aussi de faire parler leur affaire. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont appris dans la presse qu'ils avaient été libérés. On les a même pas informés.
On s'habitue à l'inacceptable.
En fait. On n'informe pas les parents de victimes.
En fait, tu es informé par la consultation du dossier. Leur avocat est informé par la consultation du dossier. En revanche, il n'en est pas forcément notifié.
Oui, donc tu apprends en fait sur les réseaux sociaux.
Même si cela dit, il est convoqué, sauf erreur de ma part, à l'audience devant la chambre de l'instruction. Donc je pense que l'avocat, normalement, il était au courant.
Merci Serge d'avoir appelé de Prague et merci de votre fidélité.
Je vous remercie. À bientôt.
Au revoir.
On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce qu'effectivement, ce qui s'est passé, cette libération, c'est la faille juridique de trop? Et vous dites oui à 95,3%.
Avec des gibets, tout cela n'arriverait pas.
Puisqu'on parle de sondage, vous avez vu que selon le tout dernier sondage, Jean-Luc Mélenchon est en train de se rapprocher du second tour. Marine Le Pen est toujours très largement en tête. Donc le duel Mélenchon-Le Pen n'est plus un fantasme ou une crainte en fonction de ce que vous souhaitez, mais peut-être une réalité. Est-ce que c'est un duel inévitable pour la présidentielle Mélenchon-Le Pen? On en parle avec vous au 32-16, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Fatima Edbounois et Jean-Loup Bonamy. Parlons un peu politique, parlons présidentiel. Vous avez vu, quasiment maintenant tous les jours, il y a un sondage. Il va falloir vous y habituer, ça va être comme ça jusqu'en mai prochain. Le dernier en date, c'est l'Institut Elab pour la tribune dimanche, qui montre quand même que Le Pen, bien sûr, reste largement en tête, mais Mélenchon se rapproche du second tour. Va-t-on vers un duel inévitable entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Alors vous savez que c'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon de se retrouver bien sûr dans ce second tour face à Marine Le Pen, puisqu'il estime qu'il y a deux projets de société, deux offres bien identifiées et que ça serait le meilleur débat possible. Marine Le Pen, elle préfère avoir Édouard Philippe, elle l'avait dit, elle préfère être face à la Macronie que face à Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, si l'on en croit ce dernier sondage Elab, la chef du RN domine toujours les intentions de vote, malgré donc sa condamnation. Et puis on voit que la bataille pour la deuxième place se resserre, puisque Édouard Philippe est plutôt en baisse, Gabriel Attal d'ailleurs est en hausse, mais c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui, selon les scénarios possibles, peut faire entre 14 et 16 et donc se retrouver au second tour. Est-ce que ce duel, selon vous, est inévitable? Le 32-16 pour intervenir, Charles.
Non, inévitable, non. Non, parce que d'abord, Mélenchon, c'est quand même, de façon quasi assurée, la défaite de la gauche s'il est au second tour. Donc, quel est l'intérêt, je trouve, pour un électeur de gauche de voter pour quelqu'un qui est a priori très faible au deuxième tour?
Donc c'est pas un vote utile, Mélenchon. C'est
en tout cas, il peut pas tirer. Si un autre candidat parvient à instiller une petite musique du vote utile, il peut en pâtir. La chance qu'il a, c'est que pour l'instant, à gauche, la gauche ne déborde pas.
C'est compliqué.
D'options charismatiques.
Il y a plein de candidats, mais.
Il y a plein de candidats, mais justement, la multiplicité des candidats, c'est le signe qu'il y en a aucun qui écrase le match. Quant à Marine Le Pen, pour moi, Marine Le Pen et Mélenchon, c'est la même ligne, hein.
Ah bon?
Quasiment. Elle est socialiste, Marine Le Pen.
Sur l'économie, mais pas sur le reste. Oui, l'immigration, la sécurité, disent pas la même chose.
Oui, mais sur l'économie, ils disent la même chose. Donc le fait qu'ils soient tous les deux, d'ailleurs, si haut dans les sondages, dit pas mal de notre pays, qui n'en a pas fini avec le socialisme, en fait, qui veut continuer dans cette voie.
Mais toi, ça serait un cauchemar, donc, si t'avais cette offre au deuxième tour.
Ah ouais, ce serait compliqué, oui, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit inéluctable. On verra. Le problème, c'est qu'il y a effectivement trop de candidats. Et puis bon, c'est quand même peut-être un peu tôt encore. Souvenez-vous, quand on prend les sondages des précédentes élections, à la même période, un an avant, on n'avait pas vraiment la fiche finale, hein, pas non. Du tout. Il va se passer quand même beaucoup de choses. Il y a le fameux automne où on aura 450 candidats. Ensuite, ça va se décanter entre Noël et janvier. La vraie campagne, elle va avoir lieu en gros en février-mars.
Pour toi, ce n'est pas inévitable.
Non.
D'accord.
Je crois pas du tout.
Et regardez ce qu'a noté mon excellent confrère du Figaro, Guillaume Tabar. À eux deux, Le Pen et Mélenchon totalisaient 29% en 2012, 40% en 2017, 45% en 2022. Là, ils sont déjà à 50% dans les sondages pour 2027. Donc il dit ça dit quelque chose quand même. Il y a 50% des électeurs qui votent pour des candidats, j'allais dire anti-système, oui, plutôt qui veulent renverser la table, qui expriment plus qu'une colère, c'est structurel, il y a quand même 50% des Français qui veulent donner un grand coup de pied.
Mais c'est normal, t'as vu l'état du pays? T'as vu le bilan de 10 ans de macronisme? Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas 100% des Français qui veulent voter soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour Marine Le Pen. Mais regarde la situation du pays. C'est un échec. Je suis pas sûr que ni Mélenchon ni Le Pen puissent améliorer les choses. Mais je suis pas sûr que ce soit les bonnes personnes. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux voter pour Édouard Philippe ou pour Gabriel Attal quand tu vois les résultats et le bilan de 10 ans de macronisme? La catastrophe absolue dans tous les domaines, y compris économique.
Mais il y a d'autres offres.
Il n'y a pas d'autres offres.
Il y a
fait.
Bruno Retailleau à droite et à gauche, tu peux préférer un Raphaël Glucksmann ou.
Non, mais arrête, tu sais, il y a aussi un phénomène, c'est que. En fait, c'est la tradition de la Ve République. C'est-à-dire que ce sont des figures qui sont là depuis longtemps.
C'est vrai.
Qui en sont à leur troisième, quatrième candidature. Et en fait, en réalité, ça me rappelle les candidatures
de Chirac.
Donc, à la fin, ils vont finir par gagner.
Et donc,
si la tradition est respectée,
exprimer un point de divergence avec le jeune Consigny, ici présent. C'est-à-dire que,
dis une connerie.
Voilà. Pour moi, en cas de second tour, Mélenchon-Le Pen, je mettrais plutôt mes billes en termes de pari, de probabilité sur une victoire de Marine Le Pen, mais ça ne sera pas une victoire facile et ça ne sera pas une victoire certaine. Et dans un second tour, même si c'est pas le scénario
républicain,
je pense que Jean-Luc Mélenchon peut gagner, je dirais, 60% de chance pour Marine Le Pen, 40% pour Mélenchon. Et je pense même, j'entends déjà, par exemple, Xavier Bertrand, président LR de région, dire qu'il fera son devoir républicain et votera pour Jean-Luc Mélenchon. J'entends Valérie Pécresse et Michel Barnier appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon.
Tu verras qu'ils le feront pas.
Tu verras qu'ils le feront. Et d'ailleurs, tu regardes aux législatives 2024, un quart, c'est énorme, un quart des électeurs LR a voté pour un candidat LFI au second tour contre un candidat RN. C'est énorme, 25%.
Oui, mais tu observeras que les têtes de gondole de LR n'ont pas appelé au Front Républicain aux dernières législatives.
Mais ils en ont profité, en ont bénéficié. Et je te dis que Xavier Bertrand, mais il y va, et même il serait prêt à devenir ministre de Mélenchon.
J'aime beaucoup Xavier Bertrand, mais aux dernières nouvelles, c'est pas parce qu'il dit un truc que tout le pays le fait.
Non, mais je te dis, d'ailleurs, je te dis qu'en cas de second tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je pense que Marine Le Pen, c'est elle qui a le plus de chances et que sa victoire me paraît le plus probable, mais je suis loin d'en être certain et je n'exclus pas dans cette configuration une victoire de Mélenchon. Je te dis, c'est 60% de chance pour Marine, 40% pour Mélenchon. Je ne pense pas du tout que Mélenchon, ce soit une machine à perdre. C'est un excellent candidat et je pense que c'est un trotskiste bien malin.
Fatima, ce duel, inévitable ou non?
Alors, pas surprenant en tout cas. C'est un duel possible, probable. Le mot inévitable, j'aime pas trop parce que on est dans un moment où les choses peuvent changer très vite. Donc, inévitable, je vais laisser le mot de côté, mais probable et possible, tout à fait. En revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée du Front républicain qui pourrait jouer un rôle. Pour moi, le Front républicain ne va plus jouer de rôle du tout.
Et bien, à chaque fois, ça marche.
Et à chaque fois, c'est de moins en moins évident.
Ça a marché en 2024.
Et le Front républicain va sonner comme un UMPS, vous vous rappelez à l'époque, quand c'était le rassemblement, là. Donc, en tout cas, ça va, le Front républicain ne va pas fonctionner pour plusieurs raisons. D'une part, les castors qui faisaient barrage en ont assez d'être pris pour des pigeons, finalement. Ils ont l'impression qu'ils se rassemblent comme ça et après qu'on immobilise le pays. Donc, non, on dit peut-être à chaque fois.
En 2024, la dissolution, le RN avait gagné le premier tour et puis ils ont perdu.
En revanche, ce que j'aimerais bien qu'on observe, c'est tout ce qui va être dans cette campagne-là. Ingérence étrangère, notamment sur les réseaux sociaux, comment les faux comptes, tout ça. Tout ce qui est... Il y a un mot pour ça, mais c'est un anglicisme, alors j'aime pas trop, avec comme un gazon artificiel. C'est-à-dire, on fait semblant qu'il y a un mouvement qui naît du peuple, qui naît du terrain, et en fait c'est complètement artificiel, pour faire croire qu'il y a un engouement. Donc j'aimerais bien qu'on surveille ça, et pour moi la presse aura un rôle à jouer, et j'aimerais que la presse et que les médias jouent le rôle comme ça, de surveillance des fake news, de surveillance des faux, de tout ce qui va être... ingérence étrangère, toutes ces choses-là.
D'accord.
Non, mais ça, c'est très, très important. Parce que ça va avoir un poids dans les élections encore plus que, et les faits divers, bien sûr. Mais en tout cas, il faudra surveiller ça.
Antoine est avec nous au 32-16. Bonjour, Antoine.
Oui, bonjour, l'équipe. Vous allez bien?
Antoine de Bordeaux. Il fait chaud à Bordeaux, là, depuis plusieurs jours. Là. Vous êtes en plein cœur de la canicule, comme on dit.
Oui, c'est vrai. Bon, alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un
peu. Ça va mieux?
Il y a du vent. Ouais, ça va mieux. On dort un peu mieux.
Ouais, dans l'Ouest, ça va aller un peu mieux aujourd'hui. Antoine, ce duel est-il inévitable, Mélenchon-Le Pen ou Le Pen-Mélenchon?
Oui, parce que les autres, ils n'ont pas de programme. Je veux dire, les autres, c'est juste la continuité de Macron qui a pour moi, fait perdre 10-15 ans. Enfin, ouais, parce qu'il est là depuis 15 ans à la France.
Non, pas 15 ans. C'est peut-être le temps ressenti. Mais ça fait 10 ans. Ah oui, d'accord.
Ressenti, ça fait 100 ans.
Quand même. Un minimum, quand même. Ministre de l'économie, quand même.
C'est vrai.
Ministre des toilettes publiques, quoi.
Non, c'est vrai qu'il était aux côtés de François Hollande,
ouais. Oui. Non, et puis en plus, moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que le clivage, il est simple entre le RN et LFI, c'est que, ils ont le même constat, sauf que les solutions, elles sont différentes. C'est-à-dire que prioritairement pour le RN, le problème, c'est l'immigration. Et prioritairement pour LFI, en gros, pour caricaturer, c'est un peu le banquier. Pas le banquier de la Banque Populaire, mais le banquier là-haut, quoi, le système financier.
La plutocratie.
Voilà. Alors que pour moi, le premier problème, c'est la souveraineté française. C'est-à-dire, ils pourront faire ce qu'ils veulent tant qu'on sera dans cette Union européenne. Je mélange pas l'Europe et l'Union européenne. Tant qu'on sera dans l'Union européenne, on ne pourra pas être souverain. Un pays qui ne maîtrise pas sa monnaie, ses frontières, ses lois.
Ni l'un ni l'autre ne propose de sortir de l'Union européenne.
Oui, donc on ne sera pas souverain.
Donc on va encore perdre 10 ans. Voilà,
c'est merci. Oui. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quel candidat propose de sortir de l'Union européenne encore
si Dupont-Aignan, mais il n'est pas pris au sérieux.
Aucun ne propose ça parce qu'aucun ne veut vraiment gouverner.
Asselineau, s'il se représente
en Asselineau, je ne sais pas.
Mais aucun ne propose ça parce qu'aucun n'a vraiment envie de gouverner.
Oui, mais sincèrement, est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose? Enfin,
c'est bien là le problème.
Merci Antoine. En tout cas, vous dites ça ne changera pas grand-chose, ni Mélenchon, ni Le Pen, tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne.
Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup déplu quand j'avais suivi la campagne de Emmanuel Macron. C'est des éditorialistes comme, et c'était Bruno Roger Petit à l'époque, qui écrivait, qui était
aujourd'hui
vraiment
un des conseillers de Emmanuel Macron,
qui était éditorialiste, journaliste, et qui normalement devait être neutre, mais il l'était pas du tout. Et finalement, à la fin, quand il y a eu l'élection, il était devenu carrément porte-parole du président.
Ce qui était assez logique, parce qu'il était déjà en tant qu'éditorialiste.
Il était déjà, mais c'était complètement. Et ça, je déteste ça. Je vous avoue, donc j'aimerais bien qu'on ait une campagne où les médias servent. Non, mais c'est vrai.
Oui,
une espèce de neutralité. Non, mais parce que là, avec Bruno Roger Petit, on a l'illustration totale de cette double casquette.
Il a été majeur, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Emmanuel Macron a été élu.
Ça lui donnait beaucoup d'importance.
2017, c'était les éditos dans Challenge. Non, c'est ça.
Les gens lisaient que ça, d'ailleurs.
Tu les voyais pas, les gens, dans le métro le matin. Tout le monde avait Challenge.
Tu veux ridiculiser.
On dit pas Challenge.
Bien entendu, l'importance des médias dans une élection politique, mais je te laisse ridiculiser, mais tu ne vas pas ridiculiser la vérité.
Est-ce que ce duel est inévitable? On a posé la question sur le compte X des grandes gueules. Qu'avez-vous répondu? Eh bien, c'est 50-50.
Non, mais c'est le mot inévitable.
Ah, ben c'est bien. 50-50, c'est partagé. Comme dans cette tablée des GG. Dans un instant,
on avait dit possible.
Pourquoi un tel déchaînement raciste autour de l'équipe de France? Après cette sénatrice du Paraguay, c'est désormais l'ancien premier ministre socialiste Rajoy, espagnol, qui s'en prend aux Bleus. Il estime que l'équipe de France, ce ne sont pas des Français. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce racisme décomplexé dès qu'on parle des Bleus? A tout de suite sur RMC, RMC Story, vous attend 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, 10h42. Et c'est vrai qu'on a deux profs, Charles, aujourd'hui. Et c'est pas simple, hein. On a l'impression d'être dans une salle de profs avec Fatima Edbounois, Jean-Loup Bonamy. Avec Charles, on a l'impression d'être les deux cancres prêts. À tout moment, on peut se faire exclure.
J'ai mis des heures de colle à Charles.
Oui, Charles vient prendre 2 heures de colle pendant la match.
J'étais un élève très dissipé.
Oui, moi aussi.
Très cancre, très absent, très insolent.
Moi, je répondais au prof. Et en fait, je me suis rendu compte des années après qu'il ne faut jamais répondre au prof. T'es sûr de perdre.
Mais moi aussi, même profil que Charles.
Toi aussi?
Ouais, j'étais très bon élève, mais insolent.
Et on finit dans les grandes gueules.
Au lycée, en tout cas.
C'est comme ça qu'on finit dans les grandes gueules. Et toi, Fatima, tu devais être une bonne élève.
Non, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout comme ça.
Non. T'étais sage.
J'étais sage, plutôt sage.
Ouais, t'étais sage.
Mais non, en tout cas, pas insolente.
Est-ce que tu faisais partie des chouchoutes?
Des faillots, même.
Est-ce que tu
faillotais à mort? J'aime pas du tout quand on dit faillot pour les élèves. Moi, j'aime bien ces élèves qui sont là, gentils, qui viennent, qui restent.
Au premier rang.
Qui viennent même pendant les récréations, qui
te font des cadeaux à la fin de l'année.
Qui font des cadeaux à la fin de l'année. Il y a moins. Mais vous savez que les cadeaux, c'est pas proportionnel à l'amour. Il y a ce mythe-là. On croit que les profs les plus aimés reçoivent le plus de cadeaux. C'est proportionnel à l'organisation dans la classe. Ça veut dire, moi, je vais être la même. Je peux avoir des classes où c'est génial. J'ai aucun cadeau à la fin. Et une classe où je vais avoir un cadeau, même un cadeau collectif, alors que ça s'est pas super bien passé, uniquement parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont capables de s'organiser. Donc vraiment, c'est pas proportionnel à l'amour, c'est un mythe ça. C'est proportionnel à l'organisation.
Allez, mes chères grandes gueules, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce déchaînement raciste autour des Bleus de l'équipe de France à maintenant quelques heures de cette demi-finale France-Espagne. Alors, on a Kylian Mbappé, qui a déjà été la cible de propos racistes de cette sénatrice paraguayenne après la défaite de son pays. C'était en 8e de finale. Et puis maintenant, on a l'ancien premier ministre espagnol, Mariano Rajoy. On l'avait oublié, lui. Eh bien, il a écrit dans une tribune, les Bleus disposent d'un effectif de très haut niveau. Jusqu'ici, tout allait bien. Et puis, il a rajouté, mais sans Français. Cela dit, il n'y a pas de Français. Alors là, ça a déclenché une série de réactions, notamment en France. Il y a des ministres, des chefs de parti en France qui ont dénoncé le racisme crasseux de Rajoy, la haine que véhiculent ses propos. Et même chez lui, l'actuel Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dénoncé des déclarations xénophobes. Pourquoi, selon vous, les Bleus provoquent autant de haine raciste? Et c'est quand même entre la sénatrice et l'ancien premier ministre. En plus, ce sont des responsables politiques, ouais. Ce sont des élus, Fatima.
Écoutez, moi, ce que je veux retenir dans cette histoire, c'est vraiment les mots de Pedro Sanchez qui résument bien le premier ministre espagnol, parce que t'as cité mais une partie. Je vous dis en entier ce qu'il a dit, et moi, ça me parle pour le coup. Il dit, il y en a qui mesurent encore l'appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau. D'autres la mesurent par l'attachement à un pays et la volonté d'y contribuer en jouant au football, en prenant soin de nos aînés ou en ouvrant des commerces. L'Espagne est à ceux qui l'aiment et la font vivre, pas à ceux qui la déshonorent par des déclarations xénophobes. France, on se retrouve pour la demi-finale, que le meilleur gagne et que le racisme perde. Je trouve que dans sa déclaration, non, il y a quelque chose de beau, parce qu'on peut le voir comme une déclaration politique, mais je peux te dire que quand on te nie ton identité, non, parce que ça te touche pas, mais moi, on m'a tellement nié mon identité, avant, ça me faisait pleurer.
Toi, tu te sens blessé quand on attaque comme ça les Bleus?
Non, maintenant, ça me blesse plus maintenant. Vous savez pourquoi? Non, ça me blesse plus. Je leur dis, non, ça me blesse plus, plus jamais il y aura une larme sur ça. Je leur dis juste, tenez bon, vous savez qui vous êtes. Après, le racisme, moi le racisme frontal comme ça ne me fait absolument plus rien. J'ai plus de mal avec le racisme insigneux, le racisme insidieux comme ça, parce qu'il est plus difficile à combattre. Celui-ci, pour moi, la France est français, celui qui contribue à son pays. C'est vraiment la phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines.
Donc on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas les origines, et ce qui compte, c'est que cette équipe joue pour la France.
C'est très petit, c'est le paraître. Donc ouais. Effectivement, moi je regarde les actions, Monica, et l'appartenance.
Monica est avec nous au 32-16 avant d'écouter Charles et Jean-Loup. Monica, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Brie-sur-Marne, Val-de-Marne, en région parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations?
Alors moi, ce qui me surprend, c'est que en fait, quelque part, on s'insurge alors qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, dans tout est fait en France pour que le racisme monte. Il y a un racisme décomplexé qu'on voit un peu tous les jours.
Ah là, c'est pas en France, hein, c'est au Paraguay, oui, en Espagne.
Écoutez,
hein.
C'est au Paraguay, mais on leur a laissé la permission du fait que déjà nous, on n'arrive pas à le gérer. On laisse un boulevard, par exemple, à des chaînes comme CNews. On invite et on continue à inviter des gens comme Zemmour qui ont été quand même multi-condamnés sur des propos racistes. On rigole parce que Jordan Bardella s'esclave sur Kylian Mbappé, mais en attendant, moi ce que je vois, c'est que Kylian Mbappé il fait le travail aussi en France pour nous ramener la coupe à la maison. Donc aujourd'hui, on a laissé faire. Et on ne peut pas s'insurger de voir, en ayant montré cet exemple, on ne peut pas s'insurger de voir d'autres prendre justement la part belle et s'imprégner de ce qui se passe déjà en France. Ils se disent, mais attendez, on a déjà des enfants de la République qui ne sont pas défendus sur ces questions du racisme. Donc nous, qui sommes-nous aujourd'hui et tout pour justement fermer nos bouches sur ces sujets-là? Ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'on leur laisse de quoi faire. À partir du moment où, même quand on voit le gouvernement, un enfant de la République comme Mbappé se fait insulter, ils ont mis du temps à réagir. Et donc c'est tout ça auquel on fait face aujourd'hui. C'est ce manque de réaction, ce manque d'indignation et à géométrie variable, parce qu'en fait, que n'aurait-on pas dit, par exemple, moi je suis pas spécialement une pro-Mélenchon, mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si, par exemple, et tout, ça avait été un Mélenchon qui avait été
Monica, vous citez...
au cœur de ce sujet-là. Ouais. Donc il faut être équitable. Aujourd'hui, quand on attaque les uns, il faut attaquer les autres.
Monica, France, vous avez cité Éric Zemmour. Vous avez cité Éric Zemmour. C'est vrai qu'avant le Mondial, Éric Zemmour a dit que cette équipe de France ne représentait pas vraiment la France, mais plutôt la banlieue.
Et
l'immigration.
Exactement, et on continue à l'inviter sur des plateaux sur des questions de racisme. On lui demande s'il condamne tel ou tel propos raciste, etc. Alors qu'on sait pertinemment qu'au vu de la réponse...
Il a été condamné par la justice, vous l'avez dit vous-même.
Il a été condamné, et aujourd'hui on lui laisse un boulevard pour s'exprimer, comme pour banaliser aussi ses idées.
Pas un boulevard, quand il est interrogé, il est questionné, contredit, s'il faut le contredire.
Il est questionné, mais en même temps...
Le débat n'est pas sur Zemmour, hein, Monica, simplement...
Oui, le débat n'est pas sur Zemmour.
Je donnais sa phrase qui ressemble peut-être un peu à ce que dit Raroy, Jean-Loup Bonamy, Monica, Jean-Loup.
Non, il y a beaucoup de choses. En effet, être français, c'est pas une histoire de couleur de peau, puisque je constate que, par exemple, à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui est blanc, aux yeux bleus, qui s'appelle Macron, moi, je ne le considère pas comme français, à titre personnel.
Ah, carrément.
Donc, tu vois que c'est pas une histoire d'origine.
C'est bizarre de dire ça. C'est pas contre le président. C'est pour être levé quand tu parles du président.
Voilà. Donc, tu vois. Donc, moi, je considère qu'en effet, Kylian Mbappé est bien plus français qu'Emmanuel Macron. Donc, en effet, je suis d'accord avec cette analyse que être français, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, puisque on a vu les traîtres qui sont dans la politique française et qui trahissent les intérêts nationaux depuis maintenant un certain temps. En effet, ils sont bien blancs avec des noms français de souche, entre guillemets. Ça ne les empêche pas d'être des traîtres pour autant.
Pourquoi Raroy, la sénatrice, c'est pour nous déstabiliser aussi?
Non, mais
Aussi une chose, moi, je suis désolé, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais oui. J'ai regardé les commentaires les plus racistes que j'ai vus contre des joueurs noirs, par exemple. Moi, je suis désolé, je les ai vus au moment de la CAN, par exemple, qui venait de supporters d'équipes du pays du Maghreb. Et j'ai vu sur Twitter le déferlement de racisme anti-noir qui venait de supporters d'équipes du Maghreb. Là, j'ai vu. Donc, tu vois, il y a aussi le... C'est valable
par
racisme.
Il y a des maghrébins racistes.
Charles.
Non, mais en tout cas...
Comment on répond à Raoy ? On lui dit quoi, alors ?
Bon, c'est un vieux schnock, on s'en fout.
En plus, il est socialiste.
Je pense qu'ils ont...
Il est droite.
Ils ont le seum par avance d'être battus. La meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est de battre l'Espagne.
Oui.
Il a lieu quand ce match ? Tout à l'heure ?
Non, alors, ce match, on va expliquer à Charles. Le match a lieu demain. Alors, ça tombe
le 14 juillet.
C'est le 14 juillet. Quel beau symbole. Le jour de la fête nationale, le jour de ton anniversaire, puisque je rappelle à nos auditeurs qu'il est le 14 juillet.
14 juillet 89.
Eh bien, ils ont décidé ce jour-là d'organiser cette demi-finale France-Espagne.
Et donc, faut qu'on batte les Espagnols. Bien sûr. De toute façon, qu'est-ce qu'ils savent faire, les Espagnols?
Pas de préjugés. Pas de préjugés. Attention, parce que c'est une équipe
et qui nous a socialisme, en gros, voilà.
Oui, voilà.
Non, ouais. Moi, sur la lutte contre les violences
les films aux femmes,
ils ont fait du concret. Il y a plein de choses où ils ont fait vraiment du concret.
Pardon, il n'y a aucun.
Politiquement, moi, j'aime bien.
Il n'y a aucun responsable français, je suis désolé, qui traite ainsi les équipes étrangères.
Alors, ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ce que ça montre, contrairement à ce que disait notre auditrice avec laquelle je n'étais pas du tout d'accord, c'est qu'en France, OK, il y a des problèmes de racisme. Mais on voit que la France, c'est le pays le moins raciste du monde. Donc, regarde la composition de son équipe, regarde le fait que ça ne suscite aucun tollé dans l'opinion publique française, ni dans les médias, ni dans la classe politique. Tu vois bien que la parole raciste au Paraguay...
Il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen avait quand même estimé qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France.
Tu vois bien que la parole raciste au Paraguay, par exemple, elle peut s'exprimer d'une manière extrêmement brutale, extraordinairement violente, alors qu'en France, ça ne vient à l'esprit de personne. Et que les candidats soi-disant extrême droite comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella ne font pas de commentaires
de France là.
Non mais ce qui importe, c'est que la France est en fait l'un des pays les moins racistes au monde.
Je disais que l'équipe de France a toujours ressemblé à ce que est la France et notamment à l'histoire de l'immigration française.
Mais surtout
dans la génération Platini, on avait des Platini d'origine italienne. On a eu dans la génération Coppa, des joueurs qui venaient de Pologne.
Conclusion, tu peux pas dire qu'en France il y a le racisme systémique, et tu vois, c'est infiniment moins brutal qu'au Paraguay ou que dans plein d'autres pays du monde.
Vous remarquerez que pour une fois, nous n'avons pas fait de discrimination positive. C'est-à-dire qu'on s'est simplement demandé. Ben oui, en fait,
on
prend les meilleurs et basta.
Oui. Bah,
et il se trouve que les meilleurs, en l'occurrence,
dans le cas présent,
sont un grand nombre de personnes racisées, comme on dit aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on applique ce principe partout. Pas de discrimination positive, on prend simplement les meilleurs. Là, c'est un cas typique. On veut pas perdre les matchs, donc on fait pas des quotas en fonction des couleurs de peau.
Juste pour le critère, le raisonnement entier de Jean-Loup, c'était n'importe quoi quand même.
Non, c'est-à-dire on n'entend pas dans la classe politique française les phrases qu'on entend au Paraguay. Excuse-moi, c'est pas n'importe quoi.
C'est
qu'au Paraguay,
quoi,
une sénatrice.
Comme l'équipe de foot est comme ça, c'est-à-dire c'est bon, on a tout réglé.
C'est pas exactement ce que j'ai dit.
Si
elle perdait, Jean-Loup.
Ils perdent, ils redeviennent l'origine. Tu gagnes, t'es français, tu perds, t'es algérien.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qui montre que la France n'est pas un pays raciste. C'est pas, pas principalement la composition de l'équipe. Non, c'est que les phrases comme celle de la sénatrice paraguayenne, tu ne les entends pas en France. Elles ne sont pas prononcées en France. Et ça serait inimaginable qu'un politique dise ça. Même Jean-Marie Le Pen ne disait pas ce qu'a dit la sénatrice paraguayenne. Et si jamais c'était dit, cette phrase serait immédiatement et unanimement condamnée par toute la classe politique et médiatique, y compris par Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Aussi au Paraguay, les gens, il y a des hommes politiques qui ont condamné.
Il y a beaucoup d'immigration allemande au Paraguay.
Allez, dans un instant, on va accueillir notre pompier, lieutenant-colonel Franck Maillard, parce que le feu sévit toujours en région parisienne, dans la forêt de Fontainebleau. Ça serait un feu d'origine volontaire. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.